nuit de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goyenné, Hassan M. Béchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin. Et donc, oui, poésie, nuit spéciale poésie. Donc non, nous ne quittons pas la poésie, et pourquoi la quitterait-on alors que débute le 18e printemps des poètes, et alors que je tiens en main un manifeste signé Jean-Pierre Siméon, intitulé « La poésie sauvera le monde », édition Le Passeur, et alors que Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes, est dans ce studio. Bonsoir Jean-Pierre Siméon.
Bonsoir.
Alors, l'année dernière, c'était au mois de mars, comme tous les printemps des poètes, vous aviez mis en lumière l'insurrection poétique et vous aviez célébré également l'œuvre de Luc Bérimont, auquel nous avons consacré du reste une nuit spéciale à la fin de l'année dernière, 2015, toujours réécoutable et téléchargeable comme toutes les nuits de France Culture sur le site franceculture.fr, rubrique les nuits de France Culture. Cette année, le héros du printemps des poètes, c'est le grand 20e. Grand 20e, d'Apollinaire à Bonnefoy, 100 ans de poésie. Alors, est-ce que vous êtes certain, Jean-Pierre Siméon, que le 20e siècle est bien terminé?
En tout cas, il me semble quand même qu'on a assez de recul maintenant pour justement jeter un regard rétrospectif sur ce grand siècle de poésie. Parce que je crois que dans l'histoire de la poésie occidentale même, le 20e siècle de poésie francophone, je dis francophone hein, parce que il faut élargir au-delà de notre territoire, c'était un grand siècle de poésie. Jamais la poésie n'a donné peut-être autant de voix, de grandes voix, admirées dans le monde entier, traduites dans le monde entier, et aussi diverses. Voilà, je crois que c'est ça que je voudrais qu'on revisite et dont on prenne conscience.
Non, mais je disais ça parce que est-ce qu'on pourrait imaginer que dans un grenier qui n'a pas été visité depuis des décennies, dans une malle bien poussiéreuse, comme il s'entend dans tous les clichés, on découvre quelques cahiers écrits par un poète, une poétesse, et qu'on découvre que, eh bien, en 1950, en 1930, en 1980, un immense poète existait et qu'il est inconnu.
Ou elle est inconnue. Ben oui, c'est l'heure de rêver, voilà. Dans la nuit rêvons, mais c'est possible, tout est toujours possible. Il y a des œuvres qui sont comme ça retrouvées. Alors, est-ce que ce serait une voix majeure? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, avoir découvert la voix de Cécile Sauvage. Une poète complètement occultée qui était la mère d'Olivier Messiaen et qui a été, grâce au travail de Béatrice Marchal, qui s'est passionnée pour ça, qui a retrouvé des textes qui n'avaient jamais été publiés, qui ont été publiés en 2004, a fait entendre une voix, moi je trouve assez forte, quoi, très très sensible, très délicate, une belle poésie. Maintenant, je dis pas que c'est la poésie du 20e siècle, mais enfin la grande poésie, mais c'est quand même une voix, donc on en retrouve quand même.
Et puis aussi le fantasme de l'inédit d'un poète ou d'une poète. On dit une poète ou une poétesse?
Alors ça, vous savez, les gens n'entrent pas dans ce débat parce que mes amis femmes qui écrivent de la poésie ont des partis pris parfois très opposés. Certaines récusent violemment le terme de poétesse qui aurait une connotation péjorative, ce qui est peut-être vrai d'une certaine façon. Bah, certaines le pensent en tout cas. Et d'autres disent on est poète, une poète, comme un poète. Donc, on va pas entrer dans le débat. Faites comme vous voulez.
D'auteur de poésie, en tout cas, alors. Non, alors ça, c'est l'inédit, mais vous, Jean-Pierre Siméon, pour le Printemps des Poètes, vous n'êtes pas en quête, que ce soit dans la réalité, comme ça, ou dans la réalité sur votre site, vous ne faites pas appel à des internautes qui trouveraient, qui dénicheraient des poésies inédites.
Non, mais on est quand même attentif à tout ce que peuvent apporter effectivement les lecteurs. C'est-à-dire, nous, par exemple, j'ai inauguré cette année, sur le site du Printemps des Poètes, une rubrique s'intitule « Apologie du poète », où je demande à quiconque, ça peut être des poètes, mais aussi à quiconque le souhaite, de faire l'apologie du poète qui l'a rencontré, ou simplement qui l'a rencontré par la lecture et qui a été fondateur pour lui. Donc on a des redécouvertes comme ça. Et moi j'avoue avoir découvert vraiment Mireille Havé par exemple, ou des poètes comme ça qui étaient passés, en tout cas pour moi, un peu inaperçus. Et c'est bien. Il y a des redécouvertes tout le temps. Puis il y a tellement de très bons poètes aussi. Comme on a parlé de Luc Bérimont qui a été occulté pendant quelques décennies quand même, et Dieu sait que c'est un poète qui a une ampleur, qui a un lyrisme chaleureux, fort, quoi, qui parle aujourd'hui. Donc, il y a toujours à relire, à redécouvrir, à refaire l'histoire de la poésie, comme de tous les arts, je pense, d'ailleurs.
Alors, vous l'avez dit, Jean-Pierre Siméon, c'est le 20e, le grand 20e, strictement francophone, auquel le Printemps des Poètes s'intéresse cette année. Alors, pour notre part, nous avons respecté la période, le 20e siècle, mais on est allé un petit peu dans d'autres directions, dans d'autres langues, puisqu'on va pouvoir entendre parler de la poésie russe. C'est une émission de Simone Ben Moussa et Harold Portnoy, présentée par Jean-Louis Barrault. C'était en 1968 sur France Culture. Et il présentait la poésie russe contemporaine. Alors, Sergueï Essénine, Pasternak, Anna Akhmatova, Evgeny Evtushenko. Il y a Ehrenburg. Et puis aussi un poète anglais. Dans l'émission Albatros, la nouvelle poésie anglaise, alors c'était l'émission date de 1983, c'était Eric Mottram, une émission de Pierre Joris. On s'intéressera également à la poésie d'Amérique du Sud, celle du Brésil en l'occurrence, une émission d'Ève Grilliquez et Henri-Jacques Dupuis, diffusée elle en 1964. Alors il y aura beaucoup de poésie de poètes francophones, puisqu'on va aussi avoir une conférence, entendre une conférence de la duchesse de la Rochefoucauld qui se posait la question, les femmes sont-elles devenues poètes ? Poète, pas poétesse. C'était dans une conférence donnée en 1960. On pourra suivre Une vie, une œuvre, Saint-Jean-Perse, le poète en exil, une émission de Bénédicte Niogrège réalisée par Jean-Claude Loiseau. Et puis, Poésie sur parole, Blaise Sandrard et la légende de Novgorod par Jean-Baptiste Parra. Et puis, alors, une grande émission de Le Tire-ta-langue, Voix de poète, 1950-1980. C'est Olivier Germain-Thomas avait retrouvé dans les archives de l'INA les poètes se disant, se lisant eux-mêmes. Donc des poètes francophones très variés. Vous, c'est la francophonie, c'est chaque année la francophonie
non,
ou le
non,
printemps
non,
des
écoutez,
poètes ?
Il y a même une année, le printemps des poètes avait pour entrée générique, vous savez, c'est pas une entrée non plus injonctive exclusive, c'était une suggestion pour donner une cohérence à l'ensemble des manifestations. Une année, j'avais donné comme entrée générique, justement, Poésie du Monde. On est bien sûr tout à fait ouvert à toutes les poésies du monde. D'ailleurs, cette année, on va recevoir des poètes étrangers pendant le printemps des poètes. On est toujours attentif, et là, vous parlez de poésie russe, mais vous savez, cette poésie russe du XXe siècle était souvent très francophile et francophone. Tsetaïeva, Akhmatova, etc. Enfin, Pasternak, ces gens-là ont eu un lien très étroit avec la culture française. Mais peu importe, au fond, on s'en fiche. Toutes les voies poétiques m'importent. Moi, je pense que la poésie est une langue en elle-même, quels que soient les avatars de langue particulière qu'elle assume, n'est-ce pas ? Donc, c'est une sorte d'espéranto, au fond, la poésie.
Et puis du reste, évidemment, quand on ne connaît qu'une langue, le français, mettons, eh bien, la poésie russe, la poésie brésilienne, la poésie anglaise, on la lit ou on l'entend en français. Alors, est-ce que ça devient un poème français ?
Ah oui, moi je crois que j'aime beaucoup le travail des poètes sur les autres poètes.
C'est-à-dire quand les traductions sont bonnes,
bien entendu. Les traductions, vous voyez, le travail Guilvy qui a fait beaucoup ça. Enfin, beaucoup de poètes ont traduit d'autres poètes et évidemment, ils apportent d'eux-mêmes dans la traduction. Donc, c'est une nouvelle création, ça c'est certain. Mais c'est comme tous les métissages ou tous les exils. On garde une part de l'origine essentielle, première, et quelque chose d'une autre couleur arrive qui ne fait pas de mal, à mon avis.
Alors, vous avez publié, Jean-Pierre Siméon, La poésie sauvera le monde, sans point d'exclamation, sans point d'interrogation. C'est édité chez le Passeur, donc évidemment, vous en êtes certain.
Écoutez, la phrase totale, c'est le début du livre, c'est « La poésie sauvera le monde si rien le sauve ».
Et c'est la fin du livre aussi.
Voilà, ce qui est déjà un peu plus prudent. Non, c'est une provocation, sans doute, mais c'est une provocation à la pensée, une provocation à penser autrement, peut-être. Moi, je pense qu'évidemment, on ne peut affirmer ça, comme j'essaie de l'expliquer, que si on dit, on sait bien de quoi on parle quand on parle de poésie, et donc on en a une idée autre que les idées courantes, n'est-ce pas, qui lénifient, qui édulcorent le propos poétique. Pour moi, c'est ce que j'essaie de faire entendre, mais pas pour moi tout seul, dans toute une tradition de Hölderlin à Rimbaud, en passant par Jouffroy, qui vient nous quitter, c'est la question de la poésie, c'est la question de la vie. C'est une manière de vivre, un état de compréhension du monde et de conscience. Donc, cet état-là, j'essaie de le définir, et d'en voir les dénominateurs communs, en tout cas, à travers l'histoire de la poésie. Et voir comment c'est un point d'appui pour aujourd'hui. C'est une autre manière de se situer dans le monde contemporain. Et je crois que c'est un comme une utopie de référence, en quelque sorte. Bien sûr, on ne peut pas tous vivre en poète, comme serait le vœu de Hölderlin. Vous savez, nous cheminons vers le sens si nous demeurons en poète sur la terre, ou si nous habitons en poète sur la terre. L'idée, quand même, ça serait que le monde irait mieux si nous allions tous dans cette direction, si nous souhaitions habiter en poète sur la terre. Ce qui ne veut pas dire en rêveur, ce qui ne veut pas dire dans l'absence de la compréhension immédiate des choses. C'est tout le contraire. Ça veut dire avec une exigence démultipliée de vivre intensément, de vivre plus près des contradictions et la complexité de l'existence.
Mais le monde irait mieux, dites-vous Jean-Pierre Siméon, mais quand il va très 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 mal, la poésie peut aller bien.
Mais la poésie
peut naître sur le terreau de la souffrance, de la tragédie.
Oui, mais je crois que c'est ce que disait Ferlinghetti, la poésie comme l'amour se porte bien dans les ruines. Je veux dire que la poésie est aussi l'objection la plus pure, la plus nette, la plus franche, la plus radicale au cœur de la catastrophe. Et là-dessus, je peux simplement donner l'exemple de ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Primo Levi, Georges Samprin, etc. C'est-à-dire que c'est au cœur même de la négation de l'humain que la poésie prenait peut-être sa valeur la plus pure, c'est-à-dire justement la réaffirmation de la dignité humaine. Elle est la voie la plus haute de l'humain, je crois. Moi, je le crois profondément. Donc, au fond, plus ça va mal, plus présente la barbarie, plus nous avons besoin de poèmes comme une objection ferme, vraiment, je dirais presque sereine, déterminée, n'est-ce pas ? La poésie est au cœur du désastre et de la catastrophe, le point, peut-être, le seul point réel d'appui. Parce que, sans cesse, la poésie fait le vœu d'un pas en avant, fait le vœu de ne pas renoncer, de ne pas céder, de ne pas se défaire de ce qui fait notre humanité foncièrement, c'est-à-dire une conscience ouverte, accueillante au monde, et on pourrait dire d'une lucidité extrême. La poésie n'est pas, encore une fois, un enjoliveur, n'est pas quelque chose qui nous ferait, vous savez, le son des violons, quoi. C'est tout le contraire. Je ne connais pas de poème qui n'ait pas une vue extraordinairement sagace, lucide, décapante de la réalité.
Alors, Jean-Pierre Siméon, quand on vous entend parler du poète et de sa parole comme ça, qui peut sauver le monde, on pense aussi à la formule que ce poète peut crier dans le désert. Bon, voilà, donc sous-entendu, ça ne sert à rien. La formule, elle est banale, mais j'ai trouvé dans votre livre, donc, un proverbe d'Ogon. Enfin, je sais pas si vous l'avez inventé ou si c'est vraiment un proverbe de Gon.
Non, ça vient.
Mais là, il s'agit pas de crier dans le désert en vain. Oui. On a beau crier dans le désert, ça ne fait pas tomber les étoiles.
Oui, oui. Non, je tiens ça à mon ami Alain Borer, qui connaît 1000 milliards de choses. C'est lui qui m'avait rapporté ce proverbe. Ça, c'était pour dire qu'en fait, il suffit pas justement d'être une pure incantation, n'est-ce pas? Moi, je crois pas à la, comment on pourrait dire, manifestons la poésie dans notre aparté, dans notre marge. Au moins, nous sauvons nous-mêmes, nous sauvons quelque chose, je sais pas, symboliquement de la dignité humaine. Non, non. Non, moi, c'est au cœur de la cité. Alors oui, effectivement, il faut bien poser la question. Moi, je ne souhaite pas aller dans le désert. Je souhaite que la poésie... C'est pour ça que quand on m'a proposé de diriger le Printemps Poète, j'ai accepté. J'ai peut-être d'autres chats à fouetter, mais je me suis dit, tiens, il y a une manière, en tout cas pour moi, de joindre l'action à ma pensée. C'est-à-dire, j'ai toujours cru, et je crois profondément, c'est une conviction, que la poésie pouvait être active dans la cité, dans l'espace public, qu'elle pouvait parler à tous. Justement, il ne faut pas la laisser dans sa marge. Et donc, sans rien céder de la poésie, c'est ça qui importe aussi, sans l'édulcorer, sans a priori non plus, par rapport à la réception, à qui peut l'entendre ou pas, faire entendre toutes les voix poétiques, de Prévert à Saint-Jean-Perse, de Sandrars à Akhmatova, faire entendre cet extraordinaire cœur poétique à travers l'histoire, c'est quand même foisonnement extraordinaire. Faire entendre ça, c'est possible. Et ça modifie quelque chose de l'atmosphère. Et ça, s'il y a un désert moral, parce que là, il existe. Un désert peut-être même intellectuel, à certains égards. On dit bien qu'aujourd'hui, il y a un vide, n'est-ce pas ? Eh bien, la poésie, là, elle résonnera très fort. Et elle peut redonner, je crois, des élans intellectuels, moraux, etc. J'y crois, ça, vraiment.
vous n'auriez pas accepté de diriger l'hiver des poètes.
Écoutez, à propos de saison, j'ai toujours pensé que mon boulot, c'était de faire qu'il n'y ait plus besoin de printemps des poètes. Je travaille à la disparition du printemps des poètes. Pourquoi ? Pour que les quatre saisons soient des quatre saisons du poème, n'est-ce pas ?
Depuis combien de temps vous êtes directeur artistique du printemps des poètes ?
Depuis 2001, voilà. Et en fait, avant, il n'y avait pas de directeur artistique. C'est Jacques Lang et Emmanuel Hogg qui ont lancé le printemps des poètes avec André Velter, Alain Borer, qui était... Puis à un moment, ils ont pensé qu'il fallait une structure, un directeur, voilà, assez vite. Donc on m'a proposé ça et j'ai dit oui, à condition qu'on ait une structure permanente. Parce qu'il ne s'agit pas de faire comme ça la fleur aux lèvres en disant tiens, il faut aimer la poésie. C'est un travail constant, un travail de persuasion, un travail obstiné avec mille et mille relais. Complices à travers la France, qui sont de tous ordres, c'est-à-dire ça peut être des amateurs de poésie, des enseignants, des libraires, des bibliothécaires, toute la chaîne du livre, mais aussi dans le spectacle vivant, des comédiens, etc. Donc il y a beaucoup d'alliés, mais il fallait d'abord réaffirmer très clairement que la poésie n'était pas, comme je l'ai dit au début, cette petite chose gentille qui fait du bien, un petit divertissement chic, que c'est vraiment des questions essentielles de l'existence.
C'est pas de la musique d'ascenseur.
Voilà, non, exactement.
Non, on s'en doute.
Ou des parfums de parking, vous voyez.
Et vous, alors, Jean-Pierre Siméon, alors concrètement, ce 18e printemps des poètes, qui commence donc demain, enfin, ou qui commence, voilà, on a eu déjà depuis 23h une heure de poésie, on va avoir toute la nuit, il y aura ce soir sur France Culture tout un spectacle consacré aussi autour de Saint-Jean-de-Perse, des choix de textes proposés par Catel Guillou, dans une réalisation de Pascal II, 20h. Ça va être dans toute la France, vous, le Printemps des Poètes, ou c'est...
Oui, c'est à toute la France, et c'est même à l'étranger, de plus en plus. Mais dans toute la France, j'attends bien préciser que c'est partout. Ça peut être dans un petit village de 300 habitants, ou quelques centaines d'habitants, comme à Kerbe, là, dans le sud de l'Aveyron, par exemple, ou de 3000 habitants, comme à Saint-Brice-en-Cogle, en Bretagne, comme dans une grande ville, comme Montpellier ou Clermont-Ferrand, voilà. C'est partout.
C'est un peu comme la fête de la musique, qui dure 15 jours, mais là, le Printemps des Poètes dure 3 semaines.
Non, il dure 15 jours. 15 jours, mais enfin ça déborde et on s'en fiche des dates. Il y a des dates officielles si vous voulez, mais quand même on parle de poésie, donc l'ordre on s'en fiche un peu, on est libertaire quand même. Donc ça peut être une semaine après, une semaine avant, je m'en fiche. L'important c'est que ça foisonne, la voix poétique soit présente. Donc oui, ça peut être un peu partout et c'est très hétérogène. Vous savez, le Printemps des Poètes, je le reconnais comme ça. C'est quelque chose de... C'est parce qu'on a laissé l'initiative au fond à qui veut. Donc bien sûr, moi j'essaie de tenir un propos cohérent, de dire ce qu'on défend. On fait de la formation toute l'année, de l'information. Mais en même temps, ça peut être des lectures par un poète, des lectures par des comédiens. Ça peut être lié à la musique, à la danse, aux autres arts. Ça peut être des affichages, comme on le voit dans les transports publics, pas seulement dans le métro parisien. Vous savez, dans des bus ou des trains à Tours, par exemple, dans la navette entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, on a lu des poèmes, on a affiché, enfin voilà. Et ça peut être mille façons. La question, pour moi, elle est d'ailleurs de trouver à chaque fois quelle médiation, on va dire, est juste, elle ne trahit pas le poème, qu'on ne tombe pas dans le gadget, mais en même temps, il faut être ouvert, il faut inventer. Rappelez-vous qu'on a suscité l'émergence des souffleurs de vers, vous savez, ces gens qui, avec des grandes sarbacanes, soufflent des vers à l'oreille des gens dans la foule. On avait travaillé avec Aurélie Kiffer, Lire dans le noir, par exemple, qu'on connaît bien à Radio France. Eh bien, je trouvais très beau l'idée de dire des poèmes dans le noir, parce que vous savez que pour bien entendre, il faut fermer les yeux. Donc, voilà, il y a mille façons de faire. Moi, j'essaie de voir ce qui s'invente. Cette année, je propose aussi des formules. Cette année, on va faire poésie en terrasse avec les jeunes comédiens du Conservatoire National. On va aller dire des poèmes sur des terrasses de café dans les bistrots parisiens. Et très simple, hein, pas de spectacle. On vient, on dit un poème, on l'offre le poème et on s'en va. Mais c'est évidemment pas sans arrière-pensée. L'idée, c'est bien sûr de faire partager la poésie à tous, mais le faire sur les terrasses parisiennes aujourd'hui, ça a du sens, je pense. Voilà.
Vous célébrez aussi, Jean-Pierre Siméon, cette année, les quelques anniversaires. Parce que la poésie, sans relais éditorial, ça reste comme ça un vent, enfin, très, très agréable, mais il faut aussi que ça soit imprimé.
Non, mais vous savez, moi, je suis un homme du livre. Je travaille à Chaîne Éditeur depuis des décennies. Je suis un passionné du livre, et je pense que la poésie naît du livre et revient au livre. quelle que soit sa tradition orale, à un moment ou à un autre, elle passe par le livre. Même les slameurs, ils se font imprimer, vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, il faut qu'on ait de la mémoire. Et comme on a quand même maintenant des siècles et des siècles, voire des millénaires de poésie, si on remonte aux origines de la poésie, ça remonte aux hymnes à Inanna, dans le Sumer, donc ça fait des milliers d'années. Donc on peut pas avoir la mémoire de tout ça, n'est-ce pas? Donc il nous faut des livres, évidemment. Et bien sûr, il y a Internet aujourd'hui qui sert de mémoire, hein, et c'est une bonne chose. Parce qu'on cherche un poème, on l'a vite sur Internet, ça c'est pas mal non plus. Mais rien ne vaut, à mon avis, rien ne vaut la lecture rémanente, méditante, seule, libre, complètement libre, seule avec son livre dans la main. Voilà. Je suis beaucoup partisan de faire entendre des poèmes à qui n'entend jamais de poèmes, à qui n'y va jamais, parce que c'est une manière de renouer avec le poème. La voix extraordinaire, c'est pour ça que la radio est le meilleur médium pour la poésie. Et rien que dans le silence, entendre la voix du poème, tout se passe. Mais je crois que c'est un tremplin pour aller après à sa propre lecture intérieure, personnelle, libre. Celle qui peut lire et relire, qui peut s'arrêter, qui peut rêver, voilà.
Alors les éditeurs jouent le jeu chaque année, j'imagine, pour le Printemps des Poètes.
Oui, oui, on a beaucoup d'éditeurs. Alors cette année, on va fêter, on s'associe à l'anniversaire des 50 ans de la collection Poésie Gallimard, qui est quand même une bénédiction pour nous tous, puisque depuis 50 ans maintenant, cette poésie a recueilli les grandes voix du XXe siècle, françaises et étrangères d'ailleurs. Et pour tout le monde, ça a été une sorte de d'école, d'apprentissage. C'est là où on rencontre les grandes voix. Mais on a aussi on travaille avec les éditeurs d'aujourd'hui. Donc, c'est Bruno Doucet, c'est Le Passeur, c'est Chaîne Éditeur, c'est, voilà, tous ces éditeurs d'ailleurs que, en région, que j'avais célébré dans une série à France Culture, Géographie du Poème, justement.
Alors, si on doit donner aux auditrices et aux éditeurs quelques conseils pour la journée qui vient, enfin, ce samedi là qui a commencé, et puis aussi les deux semaines qui suivent, en province, alors, où va-t-on? Vous avez cité quelques noms de villages.
De villes, de villages. Mais vous savez, il y a une façon très simple, c'est d'aller sur le site du Printemps des Poètes. Hein, Printemps des Poètes, vous me tapez sur Internet. Et sur le site officiel du Printemps, vous avez un agenda très précis. Tous les organisateurs peuvent s'inscrire. Et la plupart le font. Donc vous avez, effectivement, vous saurez, si vous êtes à Carcassonne ou à Lille ou je sais pas, à Metz, vous regardez, c'est facile, et vous voyez ce qui se passe. Dans les 15 jours, dans votre lieu, ça vous intéresse ou pas, mais au moins vous avez le choix. Après, c'est pas exhaustif, hein, ce n'est pas exhaustif, donc il y a aussi des choses annoncées dans la presse locale, enfin voilà.
Oui, sans doute, bien sûr. C'est relayé.
Voilà, c'est relayé, bien sûr.
Et vous faites des tournées, comme ça, Jean-Pierre Siméon, le reste de l'année, vous allez visiter, alors je sais pas, vous avez parlé des enseignants, vous allez dans
pas.
Les écoles, vous allez dans les lycées, les collèges.
Oui, vous savez, c'est ma vie, je passe mon temps à témoigner pour la poésie, pour les amis poètes, je fais beaucoup de conférences, mais vous savez, c'est pas des conférences ex cathedra, le prof agrégé qui vient dire, voilà, ce qu'il faut, ça, non, ça va. Non, c'est par témoigner de l'engagement en poésie, de ce que ça signifie, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut entendre par poésie. Vous voyez, là, tout à l'heure, je pars à Alençon, et demain, je suis à Reims, après-demain, je suis à Reims, et la semaine prochaine, à Vence. Voilà. Et tout ça pour parler de poésie, des gens qui nous invitent, pour qu'on dise un peu quel est l'enjeu, quels sont les horizons qu'ouvre le poème.
Et vous avez le temps d'écrire ?
Oui, ma foi. J'écris en marchant, comme faisait Peggy et comme faisaient d'autres, n'est-ce pas ? On écrit dans l'action. Je crois qu'il ne faut pas, imaginer. Il y a des poètes qui peuvent revendiquer leur solitude, leur retrait et dans un silence, pourquoi pas monacal, mais je respecte tout à fait ça. Moi, j'ai toujours lié l'écriture à l'action. Donc, à la parole, à l'action, à la conviction, au partage.
Alors Jean-Pierre Siméon, on vous retrouve tout à l'heure, mais donc au cours de la nuit, au milieu de la nuit, et puis d'ici là, on va entendre donc les coulisses du Théâtre de France, la poésie russe, puis une conférence « Les femmes sont-elles devenues poètes ?» par la Duchesse de La Rochefoucauld, conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales, c'était en 1960. Ensuite, il sera 1h25, « Une vie, une œuvre, Saint-John Perse, le poète en exil » par Bénédicte Niogret, réalisation Jean-Claude Loiseau, et puis « Albatros, la nouvelle poésie anglaise », Éric Motram, par Pierre Joris, une émission qui date de 1983. On se retrouvera à ce moment-là, et puis là, on écoutera par la suite une émission Poésie sur Parole sur Blaise Cendrars, sur la poésie d'Amérique du Sud, sur le Brésil en l'occurrence, et donc le Tire-ta-langue, Voix de poète, 1950-1980, par Olivier Germain-Thomas. Donc je suis certain que les auditrices, les auditeurs, poètes ou poétesses ou poètes ou non, vont écouter très attentivement, et puis vous trouveront là où vous serez et là où seront les représentants du printemps des poètes au cours de cette quinzaine, et peut-être viendront vous dire « j'ai écrit quelque chose, est-ce que vous pouvez me donner votre avis ?» Ça vous arrive souvent, j'imagine ?
Oui, ça arrive, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, c'est bien. On est attentif à tout ce qui se fait, surtout aux jeunes qui veulent écrire, tant mieux, non ?